protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Rebecca Clémenceau. Alors, c'est Clémenceau, ne pas confondre avec Clémenceau, qui, lui, avait un accent, n'avait pas d'accent sur le « et », alors que Clémenceau a un accent sur le « et ». Mais à part ça, il n'y a rien à voir. Voilà. Enfin, Rebecca. Alors, Rebecca, tout le monde connaît Rebecca dans les Cévennes méridionales. Elle est bénévole au gîte d'étape Cap de Côte, sur le col de la Luzette, enfin en dessous du col de la Luzette, cher à André Chanson. Elle veille comme une maman sur les randonneurs assoiffés, les curieux de l'histoire locale en général et Camisarde en particulier. Elle est là-haut, de Pâques à la Toussaint, sans internet ni beaucoup d'électricité. Elle fait à manger de la nourriture locale, ne lui demandez pas un dessert à la noix de coco, et elle anime des soirées. Alors bonjour Rebecca.
Bonjour Yolande.
Votre activité à Cap de Côte, est-ce que ce lieu favorise les rencontres, les relations humaines particulièrement, ce lieu-là?
Ce lieu énormément, parce qu'on reçoit beaucoup de gens s'arrêtent juste pour visiter. Moi je les incite à visiter cette magnifique maison de 1650 qui a toute une histoire. Et on reçoit des randonneurs, des gens en voiture, des cyclistes, des cavaliers, des bergers. C'est un lieu très très important aussi pour les bergers en transhumance. Et oui, je parle avec beaucoup de gens différents.
Et alors, vous êtes passionnée par l'histoire des Cévennes et l'épopée Camisarde. Est-ce que c'est depuis que vous êtes à Cap de Côte ou alors est-ce que ça remonte à plus loin, cet amour pour cette histoire?
En fait, ça fait exactement 10 ans que je m'occupe du gîte de Cap de Côte, parce qu'avant, de 1970 à 2013, il y avait un homme qui s'appelait Claude Vivier, qui lui s'en est occupé donc, pendant 43 ans. Et moi, je viens à Cap de Côte depuis 88. Et c'est depuis que je fréquente les Cévennes que je me suis aussi intéressée à la culture protestante passée et actuelle.
Et dans les rencontres que vous faites, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont intéressés par l'histoire ou alors ils sont là parce qu'ils ont fait une rando sympa dans les Cévennes, il y a un beau cadre. Et puis, ils vous écoutent poliment, mais quelque part, ça leur glisse dessus.
Les gens sont surtout intéressés par l'histoire de la maison, qui est une très belle maison, parce qu'en Cévennes, il n'y a pas de type architectural très précis, contrairement aux Causses. Et donc, ils sont très intéressés par l'histoire de la maison et la gestion, comment ça fonctionne. Et après, par l'histoire pastorale, par les brebis, les bergers. Et après vient l'histoire avec un grand H.
D'accord, l'histoire avec un grand H, c'est surtout l'épopée Camisarde,
oui,
je suppose.
Oui, Camisarde et le maquis, parce qu'il y a eu un maquis de Mandagou.
Et là, maquis des corsaires.
Le maquis des corsaires, exactement. Donc j'ai lu le livre du pasteur Gillier, qui était pasteur à Mandagou. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a interpellée, parce que les deux principaux maquis des Cévennes avaient été fondés et étaient dirigés par des pasteurs. Et puis donc les maquisards, ils sont arrêtés à Cap de Côte. Enfin, il y a toute une histoire que je raconte aussi aux gens qui sont intéressés.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une magie en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une magie cévenole qui atteint ceux qui ne sont pas cévenoles d'origine? Est-ce que des gens qui viennent d'ailleurs, de France, quand ils entendent parler des Cévennes, d'abord, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Est-ce qu'ils s'intéressent? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Moi, je ressens quelque chose de particulier quand je suis dans les Cévennes, mais bon, je ne suis pas très objective là-dessus. Est-ce que les randonneurs moyens...
Moi, c'est la même chose, je ne suis pas objective non plus, parce que j'ai eu un coup de cœur maintenant, enfin depuis quelques années, pour les Cévennes, et pour Cap de Côte, et pour Mandagou, et pour les Gouales. Et pour tous les gens qui l'ont fréquenté, comme vous disiez tout à l'heure, André Chanson, je me suis beaucoup intéressée. Je connais sa famille, on a passé les films qui ont été tirés de ses livres. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne savent pas où sont exactement les Cévennes.
Bon, c'est vrai que c'est vrai.
Les Cévennes ont une frontière un peu floue. Mmh. Mais ils s'intéressent quand même Oui, puis après, il y en a qui, voilà, qui ont une espèce de coup de cœur aussi et qui n'ont aucune envie, c'est d'y revenir. Là, ce matin, enfin hier soir, il y a eu un couple de Bretons qui faisait le chemin de Saint-Guilhem, qui se sont arrêtés manger, dormir et prendre le petit-déj ici et au gîte. Et ils n'avaient qu'une envie, c'est de revenir pour ressentir surtout la chaleur, parce que lui, il voulait de la chaleur, du soleil. Et je lui ai dit, il faut revenir l'été, parce que là, en septembre, il fait un petit peu froid déjà.
Et il parlait de la chaleur, de la température.
Oui, de la température. Non, il voulait marcher sous des. Non, il était ravi de l'accueil. Ils étaient ravis de l'accueil, mais il voulait marcher vraiment sous le soleil avec les pierres blanches. Qui, je lui dis, mais c'est un petit peu insupportable. Mais non, lui, il voulait. Donc, je lui dis, revenez quand vous voulez.
D'accord, parce que bon, au niveau de la chaleur atmosphérique, on n'est pas maître de cela.
Absolument.
Mais au niveau de la chaleur de Cap de Côte, je peux vous le dire parce que je connais. Ceux qui ont envie de passer par là et de rencontrer de la chaleur, arrêtez-vous à Cap de Côte et vous la trouverez. Alors là, on revient un petit peu sur l'histoire. Alors, vous, personnellement, l'histoire des camisards, ça résonne en vous. Pourtant, vous n'êtes pas du tout camisarde.
Non, vous ni Cévenole.
Voilà.
Je suis Cévenole de cœur.
Oui, Cévenole, c'était ce que je
voulais dire. Je suis Cévenole de cœur.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous parle dans leur combat? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans l'histoire Cévenole?
En fait, j'ai été interpellée quand même il y a très 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 longtemps en visitant le musée du Vigan, que j'aime beaucoup, qui est un musée à l'ancienne, avec aucun écran. Et donc, il parle des camisards. Il y a toute une salle sur André Chanson que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'ai lu beaucoup de ses livres. Et les derniers livres qu'il a écrits, les 10 dernières années de sa vie, ce sont des livres ayant pour thème les camisards, chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Donc, j'ai lu presque tout. Et après, je suis allée aussi à la tour de Constance Aigues Mortes, au musée du désert à Mialet, au Mas Souberan. Et après, donc j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de brochures. J'ai eu la chance aussi d'aller plusieurs fois à l'Assemblée du désert à Mialet avec
oui,
des
alors,
protestants.
L'Assemblée du désert, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le premier dimanche de septembre à Mialet. Il y a un grand culte avec beaucoup de pasteurs en robe. Enfin, c'est une grande cérémonie. Et il y a des conférences.
L'après-midi, il y a des conférences. J'y suis allée 4 fois, mais à chaque fois, je tiens à aller avec des amis qui sont eux-mêmes protestants. Parce que, je ne sais pas, c'est une espèce de communion avec les gens. Et voilà. Et j'ai aussi rencontré quelqu'un d'important, un monsieur qui s'appelait Valdo Pellegrin, qui était un protestant notoire de Montpellier et qui a écrit un livre sur Montpellier la protestante, qui est une espèce de guide touristique. Et j'ai fait la visite de Montpellier avec lui, sur les traces des protestants. Et il est venu à Cap de Côte faire une conférence aussi.
D'accord. Donc, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais à Cap de Côte, donc, il y a des conférences. Il y a les jeudis soirs de Cap de Côte pendant l'été. On peut en dire un petit mot?
Oui, depuis 2015 en fait, tous les jeudis de juillet-août, il y a des soirées buffets, donc il y a de la chanson, de la musique, des conférences, des films, mais toujours autour du local, on va dire. Donc soit ce sont des artistes du coin, soit des films sur la région. On a passé tous les films tirés des romans d'André Chanson, c'est-à-dire 3, mais il y en reste. J'ai découvert qu'il en restait un qu'on passera l'an prochain.
Oui, donc un calendrier bien chargé,
oui, bien
en
chargé.
Été.
Et c'est très, très apprécié. Les gens viennent 3 ou 4 fois par été pour voir des spectacles, écouter des choses très différentes.
Finalement, c'est peut-être aussi un moyen d'évangélisation que de faire découvrir l'histoire des camisards. Et justement, on va revenir sur l'histoire des camisards et je vais peut-être reposer encore la même question. Avec quoi vous identifiez-vous dans les camisards? C'est pas facile de répondre à ça, mais qu'est-ce qui vous parle? Pourquoi pas, par exemple, les Vendéens, si vous étiez en Vendée?
Peut-être, oui. Mais là, je suis en Cévennes, donc les camisards, ça fait partie de l'histoire des Cévennes. Et voilà, la lutte, après, c'est plus général que les Cévennes. C'est la lutte des gens pour leur liberté de conscience, chose qui existé dans beaucoup de régions de France et même dans d'autres pays et qui existe malheureusement encore maintenant. Les gens qui se battent pour leur liberté de conscience, c'est quand même très très important.
Oui, d'ailleurs, dans les Cévennes, bon, on le voit au Vigan, les gens s'échauffent assez vite sur les libertés. Moi, je l'ai vu au moment du vaccin, au moment du déconfinement, des certificats. Il y avait des panneaux au Vigan, résister. Enfin bon, c'était vraiment camisard, oui, maquisard. Oui. Bon. Ils n'avaient quand même pas les mêmes risques, hein, il faut être clair. Même si on n'était pas pour les passes sanitaires, on risquait quand même moins que... Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'on a toujours l'impression que...
Il y a un esprit, oui, c'est vrai. Mais les gens le disent, même les Cévenols le disent qu'ils sont reboussiers.
Oui,
ça veut dire
alors
que...
reboussiers, voilà.
Ça veut dire qu'ils sont un peu râleurs, un peu contre... Pas contre tout, mais ils réfléchissent avant d'être pour quelque chose.
Oui, ils sont plutôt... Il faut réfléchir pour être pour, par voilà. Contre, pour être contre, ça part assez vite. Donc, ok, la liberté de conscience, la lutte, etc. Et alors, vous m'avez parlé de spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le spectacle que vous avez vu sur l'épopée Camisard
de... Ah oui, alors ça, c'est une association qui, un peu curieusement, je trouve, s'appelle Son et Lumière en Cévennes, qui est basée autour de Mialet. Enfin, moi, je ne les connais pas directement, mais je me suis...
Alors, Mialet, je le précise, c'est le siège du musée du
voilà.
Désert.
Hein. Qui est exactement au Mas Soubéran, commune de Mialet, qui est au-dessus d'Anduze. À droite d'Anduze. Et en fait, je fais partie de cette association pour les soutenir. Et tous les 3 ans, ils mettent 3 ans pour monter un nouveau spectacle qui a toujours trait à l'histoire des Camisards. Et cette année, j'y suis allée. Ils ont présenté un spectacle qui s'appelle Exil au pluriel, qui racontait l'histoire d'une famille d'Anduze qui partait en exil parce qu'ils refusaient d'abjurer leur foi. Et c'était absolument magnifique parce qu'il y a 300 bénévoles qui sont sur scène à tour de rôle ou dans les coulisses ou à la technique. Il y a des chevaux sur la scène, il y avait un orchestre. C'était vraiment un très, très, très beau spectacle. Et tous les 3 ans, ils en montaient un différent. Il y a 3 ans, j'étais allée à Alès. Je ne me souviens plus du titre, mais c'est franchement quelque chose d'extraordinaire, je trouve.
300 bénévoles, c'est énorme pour des régions quand même comme ça, qui sont peu peuplées. Et donc, ça montre cet engouement pour l'histoire cévenole qui est partagé par quasi tous les habitants des Cévennes.
Oui, qui est toujours présente.
Voilà. Mais est-ce que ces spectacles ne sont pas finalement toujours les mêmes ? Parce que ça parle toujours donc de
non parce qu'ils prennent ils s'attachent à un fait particulier en fait un peu ils prennent une anecdote on va dire enfin une anecdote au sens large et ils brodent dessus bon je pense qu'ils cherchent un peu dans des livres quand même pour avoir un rapport avec la réalité là ils parlaient voilà d'une famille d'Anduze qui a refusé d'abjurer donc qui est partie qui s'est sauvée avec tous les risques que ça comportait de voyager en famille avec des enfants, et ils sont partis en Suisse, et puis en Allemagne, et puis en Hollande, et puis en Angleterre, et puis ils ont terminé aux États-Unis. Donc je pense qu'ils se sont inspirés de l'histoire de plusieurs familles, et comme dans un roman, ils ont reconstitué tout ça.
Oui, mais on retrouve des traces de protestants français, enfin de familles protestantes françaises, jusqu'en Afrique du Sud.
Oui.
C'est impressionnant. Là, c'est ce qu'on appelle le refuge.
Oui.
Parce qu'il y avait le désert et le refuge. Bon, ça, c'était mon petit point d'histoire.
Mais c'est pour ça qu'à Mialet, je vous coupe, mais à Mialet, lors de l'Assemblée du désert, il y a des gens, ils viennent peut-être pas d'Afrique du Sud parce que c'est quand même très, très loin, mais il y a des gens qui assistent à cette journée et qui arrivent d'Allemagne ou de Suisse ou de Hollande parce que ils en profitent pour venir en vacances en Cévennes parce qu'ils ont des ancêtres français et cévenols.
Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai de la famille. C'est plus près, c'est des Anglais, mais ils repartent toujours avec leur autocollant croix huguenote cévenols. Bon, voilà. Et sur la voiture, il y a toujours l'autocollant parce que effectivement l'histoire est très présente. Alors donc, on a vu cette imprégnation de l'histoire qui s'est faite en vous. Mais maintenant, on va parler un petit peu plus de vous, parce que là, on a parlé de Cap de Côte, enfin des spectacles. Alors, on va parler pourquoi vous êtes là, parce que ici, c'est un protestant peut en cacher un autre. Alors d'abord, est-ce que vous avez eu une éducation protestante? Est-ce que vous êtes protestante? Est-ce que vous vous définissez comme protestante?
Non, je réponds non à vos trois questions.
Voilà.
Mes parents étaient athées, donc voilà, moi aussi. Quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu intriguée par mes copines qui allaient ça s'appelait plus le catéchisme, qui allaient à l'éducation religieuse, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, à l'aumônerie, donc je suis allée aussi avec elles. De temps en temps, on discutait avec l'aumônier du lycée de choses et d'autres de la vie. Et puis voilà, mais je me suis toujours souvenue que quand j'étais toute petite, j'avais 6 ans, j'étais en Alsace avec mes parents et dans une petite ville qui s'appelle Münster. Il y avait l'église et le temple, et mes parents, bien qu'athées, ils aimaient visiter les églises et tous les lieux de culte. Et donc, on est entré dans l'église. Bon, j'étais déjà entrée dans des églises qui sont toujours sombres, avec beaucoup de choses sur les murs, des statues, des tableaux. Et après, on est entré dans le temple. Alors, dans mon souvenir, l'église et le temple étaient l'un en face de l'autre. Mais en fait, je suis retournée après, c'est pas vrai. C'est quand même dans le même village. Et là, je me souviens, à 6 ans, d'avoir été éblouie, en fait, par les murs blancs, tout simplement, et la simplicité de ce lieu. Donc, évidemment, à 6 ans, je ne savais pas ce que c'était. Mes parents n'ont pas dû m'expliquer non plus. Et puis après, quand je me suis intéressée un peu plus aux différences entre catholiques et protestants, j'ai compris. Et puis, je me suis... Alors moi, je n'ai pas eu de signe de Jésus ni de Dieu. Donc, je n'ai pas été appelée, comme on dit. Mais je me dis toujours que si un jour je crois en Dieu, je serai protestante et pas catholique. Pour la simplicité.
Alors, pour l'histoire du temple, ça me fait penser, là, en vous écoutant parler de ce dénuement qui vous a frappé, qui vous a marqué, puisque longtemps après, quand même, vous vous en rappelez, ça me fait penser aux Romains quand ils sont arrivés au temple de Jérusalem et qui se sont attendus à voir des trésors, des choses extraordinaires. Ils sont pénétrés dans le temple. Puis ils ont passé la première cour, la deuxième cour, puis ils sont arrivés tout au bout, dans le Saint des Saints. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien.
Une croix, non?
Non, rien. 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 Non, là, c'était chez les Juifs.
Ah, oui.
Donc, c'était rien. C'est-à-dire que Dieu était dans le rien. Voilà, pour les Juifs, Dieu est dans le rien. Les temples, il n'y a rien. Le Saint des Saints, alors il y a les cours auparavant, mais le vrai lieu de rencontre avec Dieu, il n'y a rien. Donc cette histoire de temple...
C'est soi-même, en fait.
Voilà, cette histoire de temple, ça me fait penser à ça, voilà. Oui. Et donc vous n'êtes pas... Vous aviez des copines catholiques. Est-ce que vous avez eu d'autres... présence de religion, avec des copines, avec des...
Non, mais un jour, il y a quelque chose qui m'a énormément choquée. C'est par rapport à une religion. Moi, mon prénom est Rebecca. Mes parents m'ont appelée comme ça à cause du livre Rebecca de Daphné du Maurier, dans lequel Rebecca est un personnage horrible. Mais bon, c'est pas grave, je m'appelle Rebecca.
C'est vrai.
Et j'étais très fière quand j'étais petite, parce que je connaissais pas du tout la Bible, mais j'étais très fière que mon prénom soit dans le dictionnaire. Et j'avais appris par cœur Rebecca, femme d'Isaac, mère d'Esaü et de Jacob.
Tout à fait.
Et une fois, j'avais 8 ans, j'étais à l'école en région parisienne, et il y a une petite fille de ma classe qui me dit « Est-ce que tu es juive ?» Moi, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Le soir, je demande à mes parents « Est-ce que je suis juive ?» Ils me disent « Non ». Et c'est tout, terminé. Donc, le lendemain, je retourne à l'école, je lui dis « Je ne suis pas juive ». Elle me dit « Alors, je peux jouer avec toi ?» Bon, sur le moment, ça ne m'a pas du tout frappée, mais des années après, je me suis dit « Ouh là là !» Et ça, c'était en 1959.
Oui.
J'ai dit « Bon, les parents, là, derrière, c'est quand même très, très grave. »
Ça donne des frissons, cette histoire-là.
Absolument.
Ça
je m'en suis aperçue longtemps après.
Oui, ça rend extrêmement mal à l'aise.
Oui.
Alors, maintenant, on arrive à l'âge où vous êtes. Vous êtes donc dans les Cévennes et à Montpellier en hiver. Vous fréquentez le temple et les activités protestantes en vous disant athée. Alors, je voudrais vous demander... qui est ce Dieu dans lequel vous ne croyez pas? Parce que, voilà, j'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi aller au temple en se disant athée? C'est-à-dire, qui est ce Dieu que vous ne croyez, en qui vous ne croyez pas?
Je ne vais pas souvent au temple non plus, mais j'y vais plus par... pour les contacts humains, parce que voilà, sur Mandagou, je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis, et certains sont protestants, donc c'est vrai que ça m'interpelle. Et je vais au temple aussi pour les rencontrer, puis pour écouter le pasteur, parce que j'aime bien quand même certains certains prêchent. Et quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, en fait, j'avais beaucoup d'amis qui allaient à Montpellier, à l'église des Dominicains, et j'y suis allée souvent pour écouter les prêches, voilà. Parce qu'on y trouve toujours quelque chose. C'est plus au niveau, je trouve, d'une philosophie, en fait.
D'accord. Mais ce n'est pas les images de Dieu qui vous rebutent, le Père avec sa barbe blanche, le Fils, le Créateur, le Justicier, celui qui punit, celui que les religions invoquent.
Non, ça m'indiffère un peu.
D'accord. Vous ne vous sentiriez pas plus proche de Dieu la mère, si on disait Dieu la mère au lieu de Dieu le Père, et si Dieu était noir, la mère était noire.
Bon, non. Alors j'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi pas, hein.
Il y a des pasteurs qui prient en disant Dieu et en disant elle. Ça s'entend, hein, à Montpellier, je l'entends, et je trouve ça plutôt sympathique.
Oui, pourquoi pas, hein.
Mais ça ne changerait pas, c'est pas ça.
Ah non,
qui...
non, 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 d'accord. Pas du tout. Non, d'accord. C'est plus une philosophie. C'est des moments de réflexion, de toute façon, quand on va au culte. Oui, ça nous fait réfléchir de toute façon à certaines choses de la vie, spirituelle aussi.
Bien sûr. Alors, nous allons faire une pause musicale. Vous nous avez choisi « Prière païenne » de Jacques Brel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons de votre choix, rapidement ?
Non, je me suis juste souvenue, quand vous m'avez demandé quelle chanson j'aimerais, je me suis souvenue que... dans le Jura, j'ai de très très bons amis dans le Jura qui sont paysans. Et en fait, je suis marraine, malgré tout, de leur deuxième fille qui s'appelle Emma. Et donc, lors du baptême, les parents m'avaient demandé de choisir une chanson et je ne me souviens plus pourquoi, mais j'ai choisi celle-là. Et elle m'est revenue là quand vous m'avez demandé de choisir une chanson.
D'accord. Eh bien, on va écouter.
N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que de lui dire je t'aime en tombant à genoux? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que pleurer de bonheur en riant comme un fou, que couvrir de tendresse nos païennes amours, c'est fleurir de prières chaque nuit, chaque jour. N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que semer nos chemins de simple poésie? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que voir en chaque chose une chose jolie, que chanter pour l'enfant qui bientôt nous viendra, c'est chanter pour l'enfant qui repose en vos bras. N'est-il pas vrai, Marie? N'est-il pas vrai, Marie?
Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans Un protestant peut en cacher un autre, avec Yolande au micro qui reçoit Rebecca. Alors Rebecca, je vais vous confier quelque chose. Ici, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des gens qui se définissent athées. tout en allant au temple. Alors, je vais un petit peu approfondir, si vous le permettez. Alors, votre athéisme, est-ce que c'est une croyance, disons, physique, il n'y a rien, ou est-ce que c'est philosophique, plutôt, Dieu ne devrait pas permettre telle chose, et donc, s'il y a des problèmes sur Terre, ben, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, ou est-ce qu'il y a d'autres, comment dirais-je, moi, d'autres raisons, d'autres... Voilà, c'est peut-être un peu creusé.
Oui, c'est une petite question que je me pose aussi, bien sûr, hein, depuis longtemps. Parce que ce qui m'a toujours intriguée, c'est que depuis des millénaires, enfin depuis que l'homme est sur Terre, hein, quand on lit des livres d'histoire ou d'anthropologie, on a l'impression, enfin c'est peut-être même pas une impression, je pense que c'est une réalité, que les êtres humains ont toujours eu besoin de croire en une divinité supérieure. Alors bien sûr, avant, ils ne comprenaient pas même les ouragans, la foudre ou les tremblements de terre. Mais moi, ça m'intrigue énormément, ça. Et je me dis que peut-être pendant des siècles, je pense que déjà, on n'avait pas le droit d'être athée. Il fallait avoir une religion, même si on faisait semblant. Enfin, en France, oui, en tout cas, pendant un moment. Hein.
Oui, il y avait des gens qui étaient athées depuis longtemps.
Oui, mais il ne fallait pas le dire, je pense, à certaines périodes.
Oui, il y avait des périodes où il valait mieux pas le dire. Effectivement, effectivement.
Et ce qui est curieux, c'est que c'est dans tous les pays du monde. Enfin, je n'ai pas poussé la recherche très loin, mais à chaque fois que je lis des livres, que ce soit les Esquimaux ou les Sud-Américains, enfin les Aztèques, les Mayas, enfin tout, en Afrique, toujours, et pour moi, c'est quelque chose de très intriguant, en fait, ça.
Il y a toujours, effectivement, des contes, des légendes, des mythes qui expliquent la création, que ce soit en Nouvelle-Zélande, avec un gros poisson qui vomit la... Oui. Non, ça, c'est Jonas. Je mélange avec la Bible. Mais bon, ça fait rien. Je n'ai pas révisé mes classiques, là. Mais je me rappelle, en Nouvelle-Zélande, avoir entendu parler de légendes sur la création du monde. Voilà, c'est toujours... Et alors, donc, ce besoin de croire, donc vous ne l'avez pas, et comment vous le jugez? Comment peut-on juger des gens? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu, je ne parle pas de vous, mais je parle de ceux qui ont cette explication. Les gens croient parce qu'ils ne comprennent pas les ouragans, les phénomènes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris pour les gens qui croient, en disant ils ont besoin, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien à rien? Est-ce que ce n'est pas le risque?
Non, je ne pense pas. Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est la deuxième face des croyances, c'est la foi, c'est quelque chose. Et tous ces gens qui croient dans des divinités multiples et variées, parce que ça existe encore, c'est quelque chose. Mais après, il y a quand même la formation par des hommes. Et quand je dis des hommes, je parle d'êtres masculins, des églises.
Oui.
Avec toutes les dérives qu'il y a eu depuis des siècles et qui continuent encore. Et ça, c'est extrêmement dérangeant.
Alors, la féminisation des religions est effectivement un fait assez récent. Quoique, chez nous, quand même, dans le protestantisme, je crois que, et notamment à Montpellier, actuellement, dans tous les pasteurs, ce sont des femmes. Alors, on ne peut pas reprocher, mais c'est vrai que, d'abord, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des femmes pasteurs qui sont dans des coins de campagne où elles ne sont pas vraiment accueillies, etc. Mais enfin, on ne va pas en parler là. Mais... Dès la pré-réforme, on parlait des Vaudois, il y avait des femmes qui prêchaient.
Oui, oui.
Il y a eu toujours, dans d'autres civilisations, il y a eu des femmes qui étaient dans les... Mais effectivement...
C'est une minorité, je pense, quand même, si on regarde l'histoire du monde.
Oui, et puis les hommes, donc les êtres masculins, ont tout fait de récupérer les choses et de remettre de l'ordre là-dedans, enfin, leur ordre. Ordre.
Oui.
Effectivement, là, on touche à la religion. Mais quand on dit que la religion est imparfaite, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas.
Oui, c'est deux choses différentes.
C'est deux choses différentes.
Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est très clair. Il y a la foi, qui est donc la croyance en un Dieu ou une déesse, pourquoi pas.
Et noir, après, il y a de préférence.
Après, il y a l'Église, qui est une construction purement humaine.
Voilà.
Oui, oui, je fais bien la différence. Hein.
Oui, oui, d'accord. Et mais alors, pourquoi fréquenter le temple ? Donc, vous nous avez parlé de philosophie, de spirituel, de... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans ce que vous trouvez dans des prédications? Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à une conférence sur, sur un livre
Je vais aussi à des conférences.
Oui, d'accord.
Au Vigan, d'ailleurs, une fois, c'est la pasteur du Vigan, il y a 2-3 ans, qui avait fait venir un homme qui travaille à l'Observatoire de la laïcité.
Oui.
Que je ne connaissais pas du tout, qui est quelque chose de fait par le gouvernement, en fait. Et du coup, c'était complètement passionnant.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que ça...
Il nous a dit que le mot laïcité, alors je ne me souviens plus des dates, mais était arrivé très très tard dans la Constitution française.
Ouais.
C'est-à-dire bien 20e siècle,
oui.
Bien après le début du 20e siècle. Après, je me souviens juste de choses très... des petites choses, mais qui marquent. Il disait que, par exemple, dans un cimetière, s'il y a une croix sur le portail ou une croix au milieu du cimetière, c'est un cimetière qui a été construit avant 1903, c'est ça, la séparation de l'Église et de l'État ?
1905, la séparation. On n'est pas loin.
Voilà.
Pas loin.
Et après, je ne me souviens plus. Et la pasteur du Vigan, si elle nous avait dit qu'après les attentats de Charlie... Elle s'était posé des questions avec d'autres membres d'autres églises.
Ouais.
Et ils étaient allés à Paris faire un gros... pour discuter tous les mois avec des ministres, on dit, plusieurs religions.
Ouais.
Donc musulmans, laïcs, musulmans, catholiques, bouddhistes, protestants, ouais, et les juifs. Et donc, ils avaient... Et après, elle était venue faire un petit compte-rendu au Vigan avec... Il y avait une nonne bouddhiste et je ne sais plus.
Donc là, il y a en fait un mélange entre la philosophie et la religion.
Oui, 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 tout à fait.
C'est-à-dire qu'on ne discerne pas, et c'est très bien, entre ce qui est philosophique et purement religieux. C'est là où l'institution s'écarte un peu, quoi. Finalement, vous ne ressentez pas le poids de l'institution religieuse quand vous allez au temple, quand vous allez...
Non, puis je pense que justement, chez les protestants, c'est moins lourd, puisque justement, les protestants, dans ce que j'ai lu, et si j'ai bien compris, il y a moins d'intercession. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chacun est face à Dieu.
C'est ça.
Tout seul. Pas besoin d'avoir un pape, des évêques, des archevêques et toute la...
C'est ça.
Toute la hiérarchie qu'il y a dans le monde catholique. Bon, après, les autres religions, je ne connais pas. Mais c'est ça, ça me plaît aussi, ça, dans l'Église protestante.
Disons que moi, quand on me demande la différence entre catholique et protestant, c'est ce que je réponds.
Oui.
Je leur dis, les histoires de Marie, alors les histoires, si elle est vierge ou pas vierge, etc.
C'est pas très grave, c'est pas très important.
Mais par contre, la définition de l'Église, chez les catholiques, l'Église est l'intermédiaire entre le croyant et Dieu. L'Église est obligatoire.
Oui, voilà.
Chez les protestants, elle est seconde.
Oui.
Elle n'est pas secondaire. Comme
c'est les gens qui font l'Église,
voilà,
en fait.
Pour être en communauté. Donc, effectivement. Et alors, donc, vous vous dites très proche du protestantisme, mais vous vous dites pas protestante. Parce que vous pensez qu'il faut être croyant pour être protestant.
Oui, absolument. C'est
d'accord.
Ce que je pense.
D'accord. Vous pensez qu'il n'y a pas de protestants qui sont incroyants ?
Ben non.
Vous n'en avez jamais rencontré ? Parce que moi, j'en connais. Je connais des protestants qui sont incroyants. Alors après, il faut définir le domaine de l'incroyance.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'incroyance ? Et là, on est sur des subtilités. Et donc, en quoi les protestants croient, selon vous ? Alors, on a parlé de l'institution.
Déjà, ils croient en Dieu et dans la parole de Jésus.
Oui.
Ils reconnaissent la Bible, pas comme un livre sacré, justement, parce que ça, je l'ai appris au musée du désert, que quand les soldats arrivaient dans les maisons, ils cachaient la Bible, ils s'asseyaient dessus, et chose qui aurait été quelque chose d'horrible pour les catholiques, où les grand-mères, elles cachaient la minuscule Bible qu'on voit dans ce musée, dans leur chignon. Donc, ce n'est pas un livre sacré, mais c'est la parole qui est sacrée, en fait.
C'est un livre dans lequel on retrouve la parole de Dieu.
Mais l'objet lui-même...
Voilà. Et Et même le contenu de la Bible n'est pas sacré. Oui. Il y a des erreurs dedans. Bon, tout le travail de l'exégèse protestante a été... d'ailleurs, pas que. Hein, d'autres religions font les mêmes choses. Et donc, ce côté sacré n'existe pas effectivement dans le protestantisme. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous apporte quand même de côtoyer les protestants? Je voudrais qu'on termine un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça change dans le rapport au monde? Alors évidemment, là, c'est un peu de l'histoire-fiction, parce que je vous demande si vous n'aviez pas connu les protestants et on ne peut pas refaire l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous les jugez, d'ailleurs, ces protestants?
Je ne les juge pas.
Non, mais comment vous les trouvez? Comment vous les sentez? Ils ne sont pas un peu agaçants, parfois? Ils sont pas un peu...
Non, après, c'est... Voilà, il y a des gens que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup d'affection, de tendresse, mais après, bon, ça passe au-dessus de qu'ils soient protestants, catholiques ou autre chose. Mais par contre, en Cévennes, pour revenir vraiment aux Cévennes, il y a encore quelque chose qui est très, très étrange, c'est que, encore maintenant, au XXIe siècle, ce clivage est très, très important. Parce que j'ai un ami qui, à 4 ans, voulait louer une maison ou un appartement dans la région du Vigan. Il y a quand même une propriétaire, qui était une dame très âgée, qui lui a demandé au téléphone, êtes-vous protestant ou catholique? Après, ça n'avait aucune importance, mais elle lui a quand même posé la question. Et ça pose question, ça, justement. Que les mariages, j'ai un autre ami qui m'a dit que les mariages, même dans les années 70, étaient très mal vus entre protestants et catholiques. Et c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres régions, mais
je pense que c'est
questionnant.
C'est particulièrement fort dans les Cévennes, c'est évident.
Oui, mais en Alsace ou en Vendée, où il y a beaucoup de protestants aussi, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas.
À ça, je ne peux pas répondre,
mais
effectivement, alors les choses ont changé, heureusement, mais il reste ce fond historique,
oui, oui.
Donc, et c'est là-dessus, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui.
Merci.
Alors, merci Rebecca.
Merci Yolande.
Et puis merci à nos auditeurs que nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure.
Et merci aux techniciens.
Oui, merci. Si vous avez des réactions, des questions, des propositions de participation, merci de les envoyer à unprotestantpeutencacherunautre@radiofmplus.org, tout attaché et avec le plus écrit PLUS et non pas le symbole. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.